Alors, aujourd'hui, je vais analyser avec vous les publicités de certains steakhouse qui ont été affichés dans l'espace urbain montréalais entre 2016 et 2018. Et je soutiendrai que l'absence du référent animal dans ces publicités participe à reconduire l'idéologie carniste, selon laquelle il est normal, naturel et nécessaire de consommer de la chair animale, puisque ces publicités banalisent la violence à l'endroit des animaux non humains. J'emprunte la notion de référent absent que j'emploierai à Carol J. Adams, qui en a fait la pierre angulaire de son incontournable ouvrage « La politique sexuelle de la viande », qui a été traduit récemment d'ailleurs. J'utiliserai la traduction. Adam explique dans son texte que « derrière chaque repas carné se cache une absence, la mort de l'animal dont la viande occupe la place ». Donc, le mot « viande » lui-même, hypocrite, participerait à nier l'existence de l'animal vivant et du cadavre résultant de l'abattage. Aussi, Adams ajoute-t-elle qu'au moyen du dépeçage, on transforme l'animal en référent absent, l'animal, à travers son nom, et son corps, est rendu absent en tant qu'animal afin que la viande puisse exister. Donc, dès lors qu'il y a viande, le référent animal n'existe donc plus nécessairement. Mais cela se rejoue également sur le plan symbolique. Dans un contexte où on invite à manger le corps animal, le référent se doit d'être absent pour que le consommateur de chair non humaine puisse sentir la légitimité de sa pratique et pour ne pas que s'ébranle l'ensemble de son édifice moral. On ne s'étonne donc pas que la réalité de l'animal en tant qu'être sensible soit évacuée des discours publicitaires faisant la promotion de la viande. Carol J. Adams s'intéresse d'ailleurs au discours publicitaire dans son ouvrage et on ne s'en étonne guère puisque, comme le constate Roland Barthes, qui fut l'un des pionniers de la sémiologie de l'image, l'image publicitaire a pour avantage de comporter des signes qui seraient pleins, c'est-à-dire formés en vue de la meilleure lecture et aussi emphatiques. Le discours publicitaire est donc un endroit où s'exprime clairement une idéologie qui, dans le cas qui nous intéresse, justifie l'exploitation de l'animal non humain par l'animal humain. Afin de clarifier le concept de référent absent et de montrer à quelle analyse il peut profiter, je vous donnerai un premier exemple dans la lignée de ceux que présente Carol J. Adams dans son ouvrage, avant de m'intéresser aux deux publicités qui formeront mon corpus principal et dans lesquelles je postule que le référent est doublement absent. Alors, on commence avec la publicité dans la veine de Carol J. Adams, ce qu'elle analyse dans son livre. Donc, dans cette publicité du restaurant La Belle et la Bœuf, qui date de cet hiver, donc 2017-2018, on constate que le référent est absent, tout simplement car l'animal est en pièces. On ne le reconnaît pas en tant qu'individu dans ses boules de viande hachée, pas plus qu'on ne reconnaît la réalité de son abattage. L'animal subit une réification, on a affaire à un produit et non à une personne. Voilà qui est assez courant dans la publicité de ce type d'établissement, on s'en doute. Or, ici, le slogan chapeautant cette image fait sourciller. Dans ce « tout le monde tout nu », on sous-entend une association entre la nudité de l'animal et entre la nudité de l'humain et celle de l'animal ici présenté. Mais la nudité de l'animal serait la viande, donc plutôt l'animal dépecé, l'animal dont la peau même serait le vêtement. Il y a quelque chose du mot d'ordre joyeux, de l'injonction à participer à la fête dans l'expression « tout le monde tout nu ». Mais ici, la nudité de l'animal implique sa mort et le corps nu qui devrait représenter la liberté est en fait un cadavre qu'on invite à consommer, à s'approprier, à faire disparaître en soi. Ce n'est visiblement donc pas tout le monde qui retire autant de bénéfices et de plaisirs à se mettre tout nu. Par ailleurs, le fait qu'il y a deux boules de viande bien rondes sur cette image n'est pas sans rappeler les rondeurs féminines dont la publicité fait régulièrement ses choux gras. Carol J. Adams développe longuement cette association que font de nombreux publicitaires entre la chair animale et le corps animal. Ici, j'ai repris une page de son livre pour montrer des exemples. Et elle interroge le confluent des oppressions entre sexisme et spécisme. Pour ma part, c'est le seul exemple où j'aborderai ce recoupement directement. Donc, dans cette publicité, tout le monde tout nu, par extension, à cause du slogan douteux, on voit symboliquement dans ces masses nues et bien rondes des seins et des fesses offertes, prêtes à être tâtées. Le sort qu'on réserve à l'animal tout nu et à la femme toute nue est donc métaphoriquement le même, palpation, consommation, dévoration du corps que l'on considère comme une somme de parties à faire sienne et non comme un lieu d'agentivité. Dans cette publicité, on voit donc que c'est l'absence du référent animal complet, vivant et puis même mort ou mis à mort qui permet que l'on puisse se réjouir à l'idée de consommer sa chair et qu'on puisse même prétendre célébrer les corps au passage. Donc, je vais maintenant passer aux deux publicités qui formeront vraiment mon corpus principal et dans lesquelles je propose qu'il y a une forme encore plus insidieuse de violence, une violence qui n'est pas uniquement celle de l'évacuation du référent, de la non-représentation de l'animal qu'on est déjà habitué de voir coupé, apprêté, comme c'est le cas ici ou dans les exemples donnés par Carol J. Adams. Il m'apparaît plutôt que dans les autres publicités que je vais vous présenter, le référent est doublement absent, puisque même la viande n'y est pas représentée, alors que c'est pourtant se contente d'y vendre. Et je suggère que cette négation radicale de l'existence de l'animal, sous quelque forme que ce soit, est nécessaire pour faire accepter aux futurs clients le message étonnamment violent ou simplement insensé, ce sera à vous de juger, qui chapeaute les images. Je m'excuse pour la qualité de l'image, je vais la décrire, alors si vous voyez mal, ça pourra aider. Alors, commençons avec la publicité de Méchant Bœuf, un restaurant de type brasserie situé dans le Vieux-Port de Montréal qui propose, je vais citer leur site web, « du bœuf Angus de qualité supérieure AAA, un bar cru délectable, des cocktails artisanaux ». Fin de citation. On ne s'étonne pas que la publicité du restaurant, que l'on retrouvait partout dans le métro de Montréal en 2016-2017, repose sur une mise en scène de la viande. Or, Méchant Bœuf use d'originalité puisqu'il ne présente pas une pièce de viande en tant que telle, mais plutôt des mains humaines qui reproduisent une scène de corrida. La rhétorique visuelle employée repose donc sur une analogie. La main située à gauche représente un taureau relativement soumis, ce que nous laisse croire l'horizontalité des doigts faisant office de corne, tandis que la main de droite, brandissant une épée, comme on en retrouve habituellement sur les cocktails, représente une torera s'apprêtant à mettre la bête à mort. La main droite surplombe celle de gauche, l'épée semble prête à plonger dans l'épine dorsale du taureau. Les éléments visuels importants, à savoir le slogan, l'épée, le logo, l'adresse, sont tous centrés sur l'affiche et en plein centre de l'image, on retrouve la pointe de l'épée, une épée rouge vif dont la connotation rappelle le sang de l'animal qui s'apprête à couler, une épée à cocktail, mais ici employée comme une véritable épée et qui fait du même coup référence aux deux vocations de l'établissement, à savoir le restaurant et le bar. On a quand même de la suite dans les idées ici, je ne peux pas dire le contraire. L'éclairage très contrasté de la photographie met également l'accent sur le rouge vif de l'épée, la seule couleur très vibrante de l'image, tandis que même les ombres rouges de la torera restent plutôt dans l'ombre. À noter que selon Roland Barthes encore, le champ connotatif est le vecteur privilégié qu'utiliserait l'idéologie pour s'immiscer dans le langage visuel ou verbal. Ici, la connotation violente de la couleur rouge nous rappelle ce qui nous est présenté, c'est la domination de l'humain sur l'animal, domination qui se conclut dans le sang par la mort de l'un au profit de l'autre. Tout comme l'image présentée relève d'une analogie, le slogan de la publicité de Méchant Bœuf repose également sur un glissement sémantique. En effet, on peut lire « la fin justifie les moyens ». Donc, un déplacement du proverbe effectué grâce à l'homophonie entre fin, F-I-N, et fin, F-A-I-M. La relation entre le slogan et la scène d'abattage suggérée nous permet de comprendre le message proposé par la publicité, soit que la fin, F-A-I-M, justifie la violence commise au détriment de l'animal. Or, un message mettant l'accent sur la justification de l'abattage d'êtres sensibles est autrement plus violent que toutes ces publicités traditionnelles de steakhouse présentant simplement une pièce de viande dans une assiette. Dans la publicité de Méchant Bœuf, on justifie la violence en l'endroit des animaux en faisant appel à l'argument de la faim. Or, la présentation d'un tel message constitue une double injure. Non, la faim ne justifie pas la mise à mort de nos semblables non-humains. Quantité d'aliments issus de plantes peuvent apaiser notre faim. Et je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais je vais citer brièvement, là, à titre d'exemple, le célèbre « Se nourrir sans faire souffrir » de John Robbins, pour rappeler qu'ironiquement, citation, « nous ne récupérons en mangeant de la viande que 10% des calories que si nous mangions directement les céréales et qu'une majeure partie des terres agricoles sur la planète sert à nourrir le bétail ». Fin de citation. En général, les raisons évoquées par les carnistes pour continuer à consommer de la viande sont la tradition, le côté pratique, convenience, et le goût. Ces arguments ne semblent pas non plus constituer de bonnes raisons de manger des animaux, mais ils ont le mérite d'être plus sensés, mieux argumentés et plus honnêtes que la simple invocation de la faim. Cet argument de la faim est d'autant plus choquant que la pantomime employée dans la publicité représente une scène de corrida, donc un spectacle traditionnel où l'humain domine l'animal de façon flamboyante, le torturant et le tuant pour le simple plaisir des spectateurs. Il y a donc une contradiction entre la rhétorique verbale et la rhétorique visuelle, puisque dans la corrida, ce n'est pas la fin qui justifie les moyens, mais bien le spectacle ou la tradition. Par ailleurs, dans la publicité de Méchant Bœuf, le référent animal est doublement absent, c'est mon hypothèse. Non seulement la viande n'est aucunement mentionnée, à part dans le nom du restaurant, mais elle n'est représentée que par analogie, par le biais des corps humains. L'aspect ludique de la scène effectuée grâce à des mimes de main et la connotation subtile du sang fourni par l'épée, sans que le sang ne soit réellement montré. Au début, j'avais mis une image de corrida, mais je l'ai enlevée. Je pense que ce n'est pas nécessaire. On a tous cette image en tête. Participe à l'oblitération de la réalité vécue par l'animal, qu'il s'agisse de la victime de corrida ou de la victime se retrouvant dans l'assiette du consommateur. Méchant Bœuf reconduit donc l'idéologie spéciste en fournissant des arguments peu convaincants pour justifier la consommation de viande et emploie diverses méthodes pour éloigner le référent que constitue l'animal souffrant ou l'animal mort. La publicité fait certes preuve d'originalité, mais le spectateur plus critique décèlera que l'imagerie de la corrida met en relief le rapport de domination fort problématique entre l'humain et l'animal, dont il fait usage pour son propre plaisir, qu'il s'agisse de celui de ses yeux ou de ses papilles. Donc, on va maintenant revenir à une autre publicité de notre premier restaurant, La Belle et la Bœuf. Vous avez sans doute un souvenir de cette publicité, dans laquelle je postule que le référent est doublement absent, mais pour des raisons différentes. Donc, dans cette publicité, on s'adresse au lecteur en lui disant « Sauve un poulet, mange un burger ». Cette exhortation est accompagnée d'une illustration, celle d'un animal, somme toute, assez étrange, aux traits caricaturés, qui ressemble à l'amalgame d'un coq et d'un poussin, étant donné sa couleur. Bref, une volaille relevant plus de l'imaginaire que de la réalité. La créature représentée est aussi fortement anthropomorphisée. Elle se met à genoux et pleure pour implorer d'être sauvée. C'est grâce à ses attributs foncièrement humains qu'elle réussira peut-être, on peut se l'imaginer, à éviter d'être mise à mort. Sa crête, son tatouage et sa veste de cuir, qui supposent d'ailleurs un rapport problématique aux autres espèces, semblent référer à un imaginaire humain, mais aussi à un imaginaire punk qui donne à cet animal des allures de « dur à cuire ». Vous me pardonnerez le mauvais jeu de mots qui était irrésistible. Or, dans le récit qui implique cette image publicitaire, le vrai dur à cuire est plutôt le spectateur, puisqu'on implique qu'il a le droit de vie ou de mort sur cet animal. La mise en scène rappelle d'ailleurs celle d'un règlement de compte, d'une exécution de sang-froid qui attend d'être menée par un bourreau qu'on imagine imperturbable. Dans cette publicité, donc, le consommateur de viande se fait ouvertement bourreau. Et si le coq a la moindre chance de s'en tirer, c'est justement parce qu'il revêt des attributs humains qui créent une similitude entre son tortionnaire et lui. On ne s'émeut donc pas de ses attributs animaliers, mais bien de ses attributs humains. La vache, qui dans ce contexte donnera sûrement sa vie pour devenir un burger, brille par son absence et n'obtient pas le statut semi-anthropomorphique de ce coq poussin qui est représenté comme digne de compassion. Si cette publicité invite à manger un burger, c'est qu'elle répugne à donner à la vache la publicité qu'elle confère à cet animal-ci, en lui donnant des allures de motard, implorant d'être gracié. Mais pourquoi la compassion accordée au coq ne serait-elle pas accordée à la vache? Pourquoi convoque-t-on les sentiments du consommateur, les mettant même en relief grâce à la couleur rouge du « sauve un poulet », pour les rejeter aussitôt avec le « mange un burger » ? Le spectateur est-il si dupe? Le paradoxe présenté par ce message est si évident qu'un site comme Montreal Eater s'est même demandé à la blague si les créateurs de cette publicité n'étaient pas des membres de PETA ayant un agenda caché. En effet, il va de soi que si le consommateur est un bourreau lorsqu'il choisit de manger le coq poussin, il l'est également lorsqu'il choisit de manger la vache. Le consommateur avec lequel la belle et la bœuf cherchent à créer une connivence est donc celui qui s'assume en tant que bourreau. Et le message qu'envoie cette publicité, qui se veut visiblement drôle, est que la compassion est somme toute risible. Cela peut sembler inavouable, mais pourtant, plusieurs ne dédaignent pas à affirmer que la compassion envers les animaux est ridicule. L'auteur Dominique Lestel, entre autres, considère que le refus de manger de la viande repose sur une vision Walt Disneyenne du monde. Fin de citation. Et sur le plan des motivations sous-jacentes à la consommation d'animaux, d'autres auteurs qui se sont sérieusement questionnés sur le rapport entre l'animal et l'humain en viennent à la conclusion que l'humain carniste mange de la viande non seulement en dépit du fait que cela entraîne une mort animale, mais même en raison du fait que la mort d'un animal est entraînée. Ainsi, Jacques Derrida propose que l'on vit dans une société carno-phallogocentriste, où l'humain légitime sa supériorité sur le reste du règne animal et se construit comme être subjectif à travers le sacrifice de l'animal non humain. C'est donc à cet individu qui a besoin de prouver sa supériorité pour construire sa propre identité que s'adresse visiblement la belle et la bœuf dans cette publicité qui fait, par le revers, l'éloge d'une certaine forme de virilité. Dans les deux publicités que nous venons d'observer, on nous invite à une violence de type exécutoire envers les animaux non humains. Le message violent est toutefois atténué grâce à l'absence de la représentation de cette mise à mort, évidemment, mais même par l'absence de l'espèce animale concernée, qui est remplacée par des mains humaines dans le premier cas ou le dessin d'un animal d'une autre espèce dans le second. Dans ces publicités, le référent animal m'apparaît donc doublement absent. Non seulement on ne le montre pas entier, vivant ou mis à mort, mais on ne montre même pas l'une de ses parties. On l'évacue totalement pour montrer autre chose. Dans « Sauve un poulet, mange un burger », on ne sait même pas tout à fait de la chair de quel animal est constitué ce fameux burger. Cette absence radicale du corps de l'animal dans les publicités de ces steakhouse permet, à mon sens, qu'on propose un message violent sans faire sourciller les futurs consommateurs. Et je crois que la vigilance est de mise devant ce mécanisme qui banalise la violence à l'endroit des animaux non humains. Donc, c'est ce qui fait le tour de la partie principale de mon exposé. Je vais juste terminer en vous montrant que ce n'est pas uniquement à Montréal que des restaurants font usage de cette stratégie publicitaire reposant sur un référent que j'appelle doublement absent. Je vous montrerai certaines images. Donc, sur les routes des États-Unis cet hiver, j'ai pu voir un peu partout des annonces du restaurant de volaille, cette fois-ci Chick-fil-A, qui anthropomorphise à son tour les animaux, mais cette fois-ci des vaches, pour nous inviter à consommer un autre type d'animal, le poulet. Et alors, si on donne assez d'intelligence aux vaches pour qu'elles soient capables d'écrire, ce qui n'est pas rien, on leur donne quand même pas assez d'intelligence pour qu'elles soient capables d'orthographier correctement. Hein? Et on voit avec les erreurs dans « chicken »,« burger »,« coming », quand même. Et pour ce qui est de banaliser ce message violent qui est envoyé grâce à ce détour comique, donc je vous proposerai simplement cette dernière image qui, à mon sens, est tellement problématique qu'elle se passe de commentaires.